bonne année. C'est mon premier culte cette année, hein, de 1000 visites. Et avec mon épouse, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin et cet après-midi. Déjà d'avoir été avec les jeunes hier, Dieu nous a fait du bien, nous a conduits. Et nous croyons qu'il va le faire encore dans cette journée, qu'il va nous bénir. Beaucoup de joie de revoir parmi vous quelques visages connus. Hein, et il y a des frères et sœurs que nous connaissons, puisque certains, on vous avait déjà vu ici à Istres, il y a bien des années en arrière. Je suis venu, je crois, deux fois avec des pasteurs différents. Puis certains, nous vous avons connus sur Gap lorsque nous étions en responsabilité du centre de vacances des Alpes. Et vous êtes venu nous donner un coup de main, un fameux coup de main qui nous a aidés à pendant ces 10 ans où nous sommes restés. Voilà, alors on en a vu plusieurs. Et je ne le retrouve plus, là, Papigeot, où il est. Voilà. Voilà, il y en a eu d'autres, hein, mais Papigeot a été très, très, très proche, habitant Gap à l'époque avec Marcel. Donc, pas tous les jours, mais pas loin. Il était avec nous au centre de vacances et nous avons beaucoup apprécié ces bien-aimés qui nous ont aidés, qui nous ont épaulés, qui nous ont suivis pendant tous ces temps. Et je crois qu'on a à rendre grâce et gloire et on a à honorer ceux qui ont servi le Seigneur. Et pour vous qui êtes là, c'est, je crois, des exemples à suivre pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Et ce matin, justement, je voudrais vous parler de la qualification pour l'œuvre de Dieu. Car c'est important de servir le Seigneur et c'est important de marcher avec lui et de savoir qu'il a... Il a prévu pour nous toutes choses et c'est extraordinaire parce que nous l'avons rencontré un jour, il est venu se révéler dans notre cœur et dans notre vie et avec un but bien précis, c'est pas de nous laisser de côté en disant ben, « tiens, tu m'appartiens, point barre », mais c'est aussi de se servir de nous. Alors, pour introduire ce message, on va le lire dans Exode, chapitre 31, Exode 31 et au verset 1er, et on va voir ce qu'il nous est dit là au sujet d'un homme qui s'appelle Betsaléel. Alors, voici ce que nous lisons. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que je t'ai donnés. » Donc, c'est déjà un bel exemple que nous avons là au travers de Betsaléel. Nous allons tout à l'heure revenir un petit peu sur ce texte, mais d'abord je voudrais introduire par également ce que le Seigneur a dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11, Éphésiens chapitre 4 et au verset 11, où il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Lorsque on regarde la parole de Dieu, on voit que l'Église est souvent comparée à un bâtiment, à une structure, à un édifice. Et en regardant cela et en pensant à ce bâtiment, eh bien, je crois que nous pouvons voir qu'un bâtiment, il ne se fait pas tout seul, mais il y a tout un processus qui se fait, un processus qui se met en place, et il y a de multiples travaux qui sont à faire, et il y a également des règles à respecter. Avant de quitter le centre de vacances des Alpes, les autorités nous ont dit, voilà, si vous voulez continuer, il faudra faire une nouvelle cuisine Economa et un nouveau réfectoire. Et donc, nous nous sommes retrouvés face à cette situation où il a fallu prendre les choses en main, et on a dit, eh bien, il faut le faire. On veut que ça continue, donc il faut le faire. Mais pour le faire, c'était un gros projet qui a coûté 760 000 euros et qui était quelque chose d'important, mais où nous avons vu la main de Dieu pour nous aider avec des fonds européens qui nous ont été alloués, plus des fonds de la région et qui, à 56%, eh bien, nous ont aidés dans la réalisation de ce beau projet. Mais lorsque nous avons eu cela, nous avons fait appel à un architecte. Parce que par rapport au bâtiment existant et par rapport à ce qu'il fallait faire, il fallait qu'il y ait quelqu'un, mais quelqu'un de métier. Ce n'était pas de dire, oui, ben, on va faire comme ci, comme ça, on va monter un bâtiment, mais il a fallu faire une étude des sols, il a fallu faire une étude du projet, et tout cela nous a amené, eh bien, à se lancer dans cette affaire. Lorsque Paul va parler aux Corinthiens dans cette première épître, au chapitre 3 et au verset 10, il dira ceci: « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Donc Paul nous donne le ton, il dit voilà, comme un sage architecte. Et l'architecte, eh bien, c'est quelqu'un qui a fait des études, mais c'est quelqu'un qui a des capacités, c'est quelqu'un qui a de la réflexion, c'est quelqu'un qui va être là et qui va avoir, avec les éléments qu'on lui donne, les surfaces qui sont nécessaires, avec la qualité du bâtiment qui doit correspondre à certains critères, va mettre tout cela en œuvre pour qu'il y ait un édifice bien coordonné, comme nous dit la parole de Dieu. Et je dirais que l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas n'importe comment. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas à U, à Adia, mais l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui se fait avec réflexion et où Dieu a pris soin, eh bien, de tout prévoir, de tout créer, pour que cette œuvre, eh bien, puisse aller de l'avant. Ce que je retiens là dans ce premier passage, c'est que Paul dit comme un sage architecte, mais il dit pas simplement « c'est moi qui vais tout faire ». Parce que l'architecte, eh bien, il ne peut pas faire tout par lui-même, il a des projets et qu'il va communiquer, qu'il va faire passer à d'autres. Et il ajoute « et un autre bâtit dessus ». Ce qui veut nous dire que lorsque nous travaillons, nous ne travaillerons jamais en cavalier seul, mais nous travaillerons en équipe. Nous travaillerons avec les frères et les sœurs qui nous sont donnés et qui vont faire, eh bien, qu'il va y avoir la grâce et la bénédiction de Dieu qui va se manifester. Alors, on va d'abord parler de la construction et une construction n'est pas envisageable s'il n'y a pas des fondations. Vous êtes bien d'accord, hein? Vous avez construit déjà, peut-être certains, votre maison, ou vous avez fait construire. Hein? Ici, oui, l'église, me dit Georges. Eh oui, c'est vrai qu'il y a des constructions. Mais vous n'avez pas dit, et la parole de Dieu nous parle, de celui qui a construit sur le sable et qui a construit sur le roc, de façon différente. Mais il y a des fondations. Et la parole de Dieu nous dit quelles sont les fondations de cet édifice spirituel qu'il veut que nous fassions encore et dans lequel nous devons continuer à travailler. Certains ont commencé avant nous, mais nous continuons encore ce qu'ils ont fait et nous passons la main à d'autres qui viennent après nous. Éphésiens chapitre 3 verset 17 nous dit ceci: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Un des premiers critères de la fondation, c'est l'amour. Alléluia. L'amour que Dieu a mis dans notre cœur. L'amour que Dieu vous a donné, qu'il nous a communiqué et que nous devons encore, eh bien, transmettre, que nous devons passer. Vous allez me dire, il n'y a pas d'amour. Souvent, on entend des fois les gens dire, il n'y a pas d'amour. Hein? Je l'ai entendu dans mon ministère, des gens me dire, frère, il n'y a pas d'amour dans l'église. Puis un jour, j'ai entendu un frère qui est venu me voir et qui m'a dit, vous savez, frère, il faut que je vous dise. Je disais, il n'y a pas d'amour dans l'église. Et puis, je suis tombé malade et j'ai été hospitalisé. Et là, quand j'ai été hospitalisé, eh bien, durant ce temps où j'étais mal en point, des frères et sœurs sont venus me visiter. D'autres m'ont appelé au téléphone. Eh bien, je regrette ce que je dis, mais j'ai vraiment réalisé là qu'il y a de l'amour dans l'Église. Alléluia. Alors c'est vrai, on n'a peut-être pas toujours les façons de communiquer cet amour, de le manifester, mais manifester l'amour de Dieu. Établissez encore ce fondement de cette Église qui a déjà manifesté l'amour, mais qui va continuer à le faire. Et vous qui êtes peut-être des nouveaux dans l'Église, eh bien sachez que vous devez être fondés dans l'amour. Colossiens 1:3, lui, il nous parle également d'un autre critère de cette fondation, où il est dit... Alors, Colossiens 1:23, pardon, j'oublie un chiffre. Voilà. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, afin que vous receviez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Fondé dans la foi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur et faites-le avec foi. C'est important. Et puis, il y a également cet autre critère qui est d'être fondé sur le roc. Je parlais tout à l'heure de la maison qui est construite soit sur le roc, soit sur le sable. Mais le Seigneur nous a dit que c'est la maison qui a été construite sur le roc qui a tenu au jour de la tempête. Et la tempête, elle fait partie de la vie. Eh oui. Encore ces jours-ci, on nous a parlé de la tempête. Il y en a eu d'autres avant ça, en Martinique. Il y en a eu d'autres dans d'autres endroits du monde, de France. Et il y en aura encore. Et il y a aussi des tempêtes dans nos vies. Enfin, peut-être pas à Marignane. Hein? Parce qu'à Marignane, c'est un... pourquoi je dis Marignane? Merci. Istres. Hein? Ah oui. Mais il y a des tempêtes partout. Il y a des tempêtes qui sont là et qui sont difficiles parfois. Mais nous savons que quand Jésus est monté dans la barque, il a dit « Silence, tais-toi » et la tempête s'est arrêtée. Fondons nos vies et fondons également cette œuvre, cette bâtisse sur le roc. Et puis, fondez également, et c'est Colossiens 2:22 qui nous le dit, alors on va lire à partir du verset 20 pour mieux comprendre. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ces préceptes qui deviennent tous pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Nous devons être fondés sur les ordonnances et les doctrines de Dieu et non pas celles des hommes. parce que celle des hommes dénature, eh bien celle de Dieu et nous amène à toutes sortes de conflits en disant ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et souvent, eh bien, on tombe dans un carcan qui est là, eh bien, pas ce qui est à la gloire du Seigneur et qui nous éloigne de ce qu'il a prévu pour nous. Lorsque les fondations sont faites, lorsqu'elles ont été bien érigées avec toute la ferraille, le ciment, enfin qu'elles ont été conformes, va venir s'installer dessus une plateforme. Et dans le psaume 89 et au verset 15, psaume 89, verset 15, je lis ceci, « La justice et l'équité sont la base, c'est-à-dire la plateforme de ton trône. » La justice, ce qui est équitable, ce qui est juste, et c'est ce qui vient de Dieu et qui est là pour établir encore une bonne base dans notre vie spirituelle et dans l'Église. Et puis, vont monter les murs ou souvent aussi les piliers, les colonnes. Et là, nous avons encore un autre passage de Timothée qui est là pour nous parler et qui nous dit ceci dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Voilà, heureusement qu'il y a quelqu'un aux manettes, hein, parce que je vous fais tourner les pages de la Bible hein, ce matin. Voilà, 1 Timothée, chapitre 3, et au verset 15, où nous lisons ceci, même verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi ». Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Et là, dans ce qui est mentionné comme étant les colonnes, l'appui de la vérité, eh bien j'y vois là les anciens qui sont là dans l'œuvre de Dieu et qui sont là appelés aussi eh bien, à servir. Et Galates 3, 9 nous parle de Jacques, de Céphas et de Jean, qui sont regardés comme des colonnes dans l'œuvre de Dieu, donc de Galates. Et puis Apocalypse 3, 12 qui dit « Je ferai de lui une colonne dans le temple ». Certains sont là et sont appelés à être des colonnes, des appuis. Et ils sont là pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et béni soit le Seigneur pour les frères qui sont dans le service et qui sont là comme des anciens, qui sont là comme des diacres, qui sont là comme des évêques, qui sont là pour servir le Seigneur et qui vont être là pour épauler le serviteur de Dieu et qui vont avec lui eh bien faire que cette structure va tenir ferme, qu'elle va être bénie et que eh bien il va y avoir une évolution, un développement de l'œuvre de Dieu dans laquelle on est. C'est formidable et je crois que nous devons prier le Seigneur afin qu'il mette à part des hommes qui soient remplis de l'Esprit, on va y revenir tout à l'heure, mais qui soient bénis, dirigés par le Seigneur afin de servir du plus profond d'eux-mêmes. Mais tout cela, eh bien, c'est bien, mais il y a quand même quelque chose que nous voyons dans cet édifice et qui s'appelle la pierre angulaire. Ah oui. Et la pierre angulaire, 1 Pierre 2, 6, 7 nous en parle, hein, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui est là et qui doit être au milieu de nous, comme étant celui qui est honoré, respecté, qui est béni, qui est servi, que l'on va eh bien, honorer du plus profond de nous-mêmes, la pierre angulaire. Et grâce à lui, et grâce à cette pierre, tout l'édifice eh bien, tient. Alléluia. J'aime bien les vieilles pierres. J'aime bien voir ces ponts, ces choses qui ont été faites dans le temps. Et vous avez justement souvent au milieu, il y a des ogives parfois, et vous avez une pierre, vous vous demandez comment elle tient. hein, comme un théâtre. Et après, les autres, elles sont mises. Et je dis, c'est extraordinaire. Et je suis toujours émerveillé devant ces bâtisses d'autrefois, dont certaines ont des siècles et des siècles, et de voir comment elles ont été et comment il y a une pierre, eh bien, qui est la pierre principale de l'angle, qui est cette pierre qui tient tout le reste. Gloire au Seigneur. Et sans le Seigneur, eh bien, on n'est rien. Mais avec le Seigneur, on est tout. Que Dieu soit béni. Il y a une pierre angulaire, mais s'il y a la pierre angulaire qui est la principale, qui est celle qui nous intéresse, il y a aussi d'autres pierres. Et ces pierres, c'est nous. Et c'est Pierre qui en parle, sans jeu de mots. Hein. Un Pierre, deux, quatre, nous en parle et nous dit que nous sommes des pierres vivantes pour faire cet édifice. Alléluia. Nous sommes tous des pierres. Et on est tous différents. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des minces, il y a des plus étoffés. Je suis gentil, hein ? Vous voyez comment je... Hein ? Après, il y a toutes sortes de différences. Bon, ça c'est pour la morphologie. Mais après, il y a aussi des caractères différents. Il y a des doux, il y a des bulldozers. Hein ? Il y a de toutes sortes de choses. On n'est pas pareil. Et on ne réagit pas tous pareil. Quand j'ai commencé mon ministère avec monsieur le philâtre père, il m'appelait le bulldozer. J'ai appris avec le temps à changer. Hein ? Parce que foncer, c'est pas toujours bien. Hein ? C'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Mais nous sommes tous des pierres. Nous sommes des briques. Et nous sommes posés les uns à côté des autres. Et posés à côté des autres, si on nous posait comme cela, je crois que... Vous avez déjà monté un mur en pierre ? Peut-être oui, hein, certains ont monté. Moi, dans mon jardin, il y a un bout où j'ai été ramasser des pierres dans la colline et tout ça, et où j'ai fait un mur. Mais ce n'est pas évident, hein, parce qu'il y en a des grosses, il y en a des plus petites, et puis elles ne sont pas pour les poser les unes sur les autres. Ça balance, ça ne va pas bien. Il faut essayer de caler, il faut faire toutes sortes de choses pour essayer d'arriver à faire quelque chose de convenable. Et oui, toutes les pierres, elles sont différentes les unes des autres. Et il faut, eh bien, que nous acceptions cela, que nous sommes tous différents les uns des autres. Et puis même les hommes et les femmes, c'est différent. Hein, les hommes, ils ont une façon de voir, d'agir. Les femmes, elles ont une autre façon de voir, d'agir. Mais tout cela, ça compose l'œuvre de Dieu. Et nous avons donc besoin de réaliser que c'est le Seigneur qui nous a mis les uns à côté des autres. Mais pour cela, eh bien, il a prévu. Il a prévu un ciment. Il a prévu soit de la chaux, soit du sable, enfin, suivant les moments où on a construit, mais il a prévu des choses qui font que, eh bien, ça va se tenir. Hein ? Il ne va pas y avoir de grincement, parce que les pierres, s'il y en a une aiguë contre une autre, ça risque de grincer, ça risque de faire mal et ça risque même de blesser. Mais si on laisse le Seigneur agir, alors eh bien, il va bénir. Et il dit que au chapitre 2 de Colossiens et au verset 19, il est dit... Ceci, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va venir et il va bénir nos cœurs et nos vies. Le Saint-Esprit va venir nous amener à réfléchir, à dire, Seigneur, comment dois-je me comporter ? Comment dois-je faire ? Comment vais-je parler à mon frère et ma sœur ? Parce que ce n'est pas qu'il faut se taire, qu'il ne faut rien dire, mais il y a aussi des façons de parler, des façons de s'exhorter, des façons de faire. Et je crois que notre Dieu, eh bien, va nous bénir. Et il va être ce ciment merveilleux qui fait que tout est formidable quand on est ensemble dans le Seigneur. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, eh ben ça va coincer, ça va être dur. Mais si on a le Saint-Esprit, tout ira pour le mieux. Maintenant qu'on a parlé de la construction, pour faire cette construction, il faut des ouvriers. Et quelle est la qualification des ouvriers? OHQ. Ouvriers hautement qualifiés. Voilà, vous avez tout compris. Ça se voit que vous êtes dans le monde du travail. Hein. Alors, je ne sais pas, les jeunes, peut-être, ils ne savent pas encore, hein, les tout jeunes, ils ne sont pas arrivés jusque-là, mais les anciens, hein, ben, vous savez, les moins anciens, vous savez, hein, ouvriers hautement qualifiés. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Alors, on n'a pas toujours des ouvriers qui sont hautement qualifiés. Mais pour ce faire, et pour qu'ils le deviennent, il faut faire un apprentissage. Et la vie chrétienne, eh bien, on ne sait pas tout d'emblée, on ne sait pas tout comme ça, mais il y a un apprentissage, je dirais, qui se fait dans la vie chrétienne où on a des expériences à faire, où on peut agir et voir pour grandir et pour s'étoffer. Il y a parfois des gens que j'appelle les touche-à-tout. Ils savent tout faire et rien faire. Ils savent tout faire. Oui, moi je sais. Mais après, il faut voir dans quelles conditions les choses ont été faites. Après, il y en a qui sont bricoleurs. Hein. Je suis des fois émerveillé parce que, il y en a, ils savent tout faire. Hein. Ils savent tout faire. Vous leur donnez quelque chose, à que ce soit dans l'électricité, dans la plomberie, dans la maçonnerie, dans la décoration, dans la mécanique, dans la couture. Partout, ils excellent. Chapeau, hein, chapeau, ah oui, j'ai un beau-fils qui est comme ça, hein, et tout ce qu'il entreprend, il le fait, et il le fait bien. Alors merci Seigneur, son épouse est très contente, hein, voilà, hein, ma fille est très contente, voilà, hein, et voilà, mais on a besoin d'être qualifié. Et on a besoin aussi de faire le travail qui nous est imparti. Et non pas de faire le travail des autres. Parce que des fois, on voudrait, dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous demande quelque chose et nous donne un apprentissage, et on dit, oui, mais j'aimerais bien ce que lui fait, le frère, la sœur. Mais non, c'est ce que Dieu t'a demandé à toi de faire. Parce qu'il a pour chacun quelque chose. Et c'est là que nous voyons que dans ce travail de coordination qu'il y a pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et grandisse, eh bien, il y a, tout à l'heure nous l'avons vu, il y a un sage architecte, Paul nous en a parlé, mais d'abord on a vu qu'il y avait celui qui est le principal, c'est-à-dire le Christ. Donc il y a le Christ. Ensuite, il y a le pasteur. Et nous avons lu en début de ce message le passage des Éphésiens où il est dit quels sont les différents types de pasteurs, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc., qui sont mentionnés par la parole de Dieu et que Dieu a donné pour l'édification commune, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, certains ne voudraient pas de pasteurs. Dieu en a donné, voilà, et nous nous conformons à ce que le Seigneur eh bien, a dit. Alors, le Seigneur, qui est le grand patron, le pasteur, ou les pasteurs, quand il y en a plusieurs dans les églises, le chef de chantier et ses adjoints, puis ensuite, il y a les chefs d'équipe, c'est-à-dire les colonnes que l'on a vues tout à l'heure, hein, qui sont là, les anciens qui sont là, et qui sont là aussi pour épauler. Et puis, il y a des ouvriers, et puis il y a aussi des manœuvres. Dieu nous a conduits en 1991 à Hyères-les-Palmiers, puisque nous venons de Hyères-les-Palmiers. Dieu nous a conduits à ce que je construise ma maison. Je ne suis pas maçon. Mais un jour, j'étais désespéré, je fais juste une parenthèse là, j'étais désespéré, on cherchait logement, une location ou acheter quelque chose de tout près. Et on n'arrivait pas à trouver. Et un jour que j'étais devant la face de Dieu, que je priais, Dieu m'a parlé par un passage des Proverbes dans le chapitre 23 et verset 24. « Soigne tes affaires, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Coup de poignard, tu bâtiras ta maison. Mais Seigneur, je ne suis pas maçon. Mais Dieu m'a conduit, ça serait très long de vous expliquer tout ça, mais Dieu m'a conduit. Aujourd'hui, j'ai une maison sur la Côte d'Azur, mais c'est vraiment le miracle de Dieu, la grâce de Dieu. Et donc, on a fait cette maison, mais c'est pas moi l'ouvrier qui ai monté les parpaings. Moi, j'étais le manœuvre. Et j'ai aidé, oui, j'ai monté quelques parpaings, mais sous l'œil d'un frère, d'un chrétien qui avait fait 900 kilomètres pour venir me construire le gros œuvre de ma maison. Eh oui, chacun a sa place. Et je crois que nous avons besoin de prier pour que Dieu nous montre qu'est-ce qu'il a pour nous en réserve, dans sa façon qu'il va nous utiliser et qu'il va nous conduire. Et il y a toujours quelqu'un pour commander. Aujourd'hui, des fois, on dit « Moi, je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. » Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a quand même quelqu'un pour commander. Et le livre des Proverbes nous dit que quand un esclave prend la place du maître, c'est la catastrophe. Hein, c'est la catastrophe. Mais il faut bien que les choses soient à leur place. Et quelle est notre place ? Eh bien, celle que Dieu va nous donner. Et je crois que Dieu nous révèle quelle est sa volonté. Dieu nous révèle quel est son plan. Et entre autres, je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a rendu capable de mener même sur Gap les travaux. Certes, il y avait un architecte et tout ça, mais de ce qu'il nous a qualifié pour mener ces choses, pour mener les travaux et pour voir la réalisation eh bien, de ce qui a été fait. Oui. La qualification, c'est Dieu qui qualifie. Et je reviens donc maintenant eh bien, à ce texte que je vous ai lu au départ dans le livre de l'Exode au chapitre 31 et au verset 1er, et où il nous est parlé donc de Betsaleel. Et j'aimerais, pour conclure ce message, donner quelques points que Dieu eh bien, nous donne là au travers de ce texte pour nous montrer ce qu'il veut faire également avec nous. Parce qu'il nous est dit que pour l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament, donc pour eh bien, tout ce qui était à faire, donc pour l'œuvre de Dieu, eh bien, Dieu a choisi un homme qui s'appelle Betsaleel et il l'a choisi. Alléluia. La parole de Dieu nous montre que c'est Dieu qui choisit. Et quels sont les critères de Dieu pour choisir quelqu'un ? Pas les nôtres. Parce que dans Actes chapitre 9, lorsque Dieu va parler à Ananias au sujet de Saul de Tarse, il dit « Je l'ai choisi afin qu'il porte mon nom devant les nations. » Qui était Saul de Tarse ? Un meurtrier, un persécuteur, un homme que je n'aurais jamais choisi. J'aurais eu trop peur que... hein ? Eh oui. Mais pourtant, c'est Dieu qui l'a choisi. Et c'est avec cet homme-là qu'il a sorti de ce milieu dans lequel il était, qu'il a fait un homme. On parle de Saint Paul aujourd'hui, hein, et c'est vrai que c'était certainement un saint dans le Seigneur, comme nous sommes des saints, parce que nous sommes des enfants du Seigneur, il nous a sanctifiés, et il a fait pour lui de grandes choses. Quand on voit comment Dieu s'y prend avec des frères et sœurs qui étaient bas tombés dans le bourbier du monde, qui étaient des moins que rien et qui aujourd'hui sont dans l'œuvre de Dieu à la tête parfois d'église comme serviteurs de Dieu ou comme chrétiens, mais qui sont engagés dans le service, on dit « Seigneur, merci, c'est toi qui l'as choisi et tu as bien choisi. » Alléluia. Alors, laissons Dieu choisir parce que ses critères ne sont pas les autres. Il nous est dit qu'il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Et je retrouve dans le Nouveau Testament, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1er, verset 8, que Dieu a dit « Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour être mes témoins, pour être mes serviteurs, pour être mes ouvriers, pour être ceux que je vais utiliser. » Que ceux dont je vais me servir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous voyons que ce qu'il a fait, eh bien, il l'a bien fait parce que ces pêcheurs de poissons, comme Pierre, Jean, ils sont capables, eux qui étaient des gens eh bien, tout à fait ordinaires, normaux, ordinaires, eh bien, il va donner à Pierre de pouvoir prêcher la parole de Dieu. 3000 âmes se convertissent. Chapeau, hein. Eh oui, eh oui. Mais il leur a donné. C'est lui qui les a choisis et qui les a commissionnés, qui les a éduqués, qui les a remplis de l'Esprit de Dieu, qu'il a remplis également de sagesse. Est-ce que nous sommes sages? J'allais dire, est-ce que vous êtes sages? Mais il vaut mieux que je dise, est-ce que nous sommes sages? Jacques, chapitre 1er, et au verset 5, nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, donne-moi ta sagesse pour travailler dans l'œuvre de Dieu. J'en ai besoin. Je ne peux pas travailler sans la sagesse de Dieu qui va être celui qui va me conduire, qui va me diriger, qui va conduire mes paroles. Quand je vais ouvrir ma bouche pour parler avec quelqu'un, bien, au lieu de m'énerver, au lieu de lui foncer, d'être le bulldozer, je vais apprendre à l'écouter. Je vais apprendre à le conseiller. Je vais apprendre à lui communiquer quelque chose, comme Jésus le ferait, comme Jésus accomplirait cette œuvre. Eh bien, moi aussi, je vais le faire parce que Dieu me remplit de sagesse. Alors, si par cas vous en manquiez, demandez-la à Dieu et il va vous l'accorder. D'intelligence. On a souvent entendu, t'es pas intelligent, hein. Peut-être nos parents nous l'ont dit, ou des gens de notre entourage nous l'ont dit. T'es pas intelligent, oh là là. Mais merci Seigneur, parce que j'ai vu, et vous lirez dans Éphésiens 1:9, la référence où Dieu parle de l'intelligence au travers de la bouche de l'apôtre Paul, mais j'ai vu combien Dieu est grand. Et combien même des gens très simples du peuple, même des gens analphabètes, avaient une intelligence de Dieu remarquable. Remarquable. Capable de parler, de dire, d'être dans l'œuvre de Dieu, des exemples, des témoignages forts, puissants. Ils avaient l'intelligence d'en haut. Ils avaient l'intelligence du Seigneur et c'est ce que nous devons avoir, de savoir pour toute chose. Des savoirs pour toute chose, on ne sait pas grand-chose parfois, mais Dieu nous apprend au travers de notre vie. Je n'étais pas bricoleur pour deux sous, j'habitais en ville et je n'étais pas très bricoleur, mais au fil des années, j'ai appris, et surtout dans le ministère. Parce que des fois, il a fallu pallier à certaines situations, dépanner dans l'église certaines choses. Et quand on a des petites églises, eh bien, au départ, on n'a peut-être pas toujours tous les instruments nécessaires. Et puis après, quand on est dans un centre de vacances, eh bien, il faut mettre la main à la pâte aussi dans différents domaines de savoir pour toutes choses. C'est Dieu qui qualifie. Et je me souviens toujours d'avoir été marqué par quelque chose qui s'est passé au début de mon ministère. Donc, c'était en 1968, le pasteur Thévenet, qui est dans la gloire maintenant, partait au Niger et il était passé à Perpignan où j'étais avec un Land Rover qu'il avait acheté et qu'il avait aménagé pour pouvoir partir en Afrique avec et aller faire de l'évangélisation donc au Niger. Et il s'était arrêté à Perpignan et cet homme... Eh bien, était allé chez un chrétien et là, avec ce chrétien, ils ont fabriqué une pièce qui était nécessaire pour cette automobile et ils ont fait quelque chose. J'ai vu là un homme qui avait été qualifié pour l'œuvre de Dieu. Qualifié. Et Dieu va vous qualifier. Et vous allez être surpris souvent de ce que Dieu vous donne de réaliser. Parce que c'est le Seigneur qui va le faire. Et le verset suivant dit, je l'ai rendu capable. Je l'ai rendu capable. Salomon priait lorsqu'il était à la tête du peuple de Dieu et il priait pour que Dieu lui donne ce qui était nécessaire. Et Dieu lui a répondu en disant « Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Donne-moi de savoir conduire l'œuvre de Dieu. Donne-moi de savoir diriger. Donne-moi de savoir faire. » Pourtant, c'était un homme extraordinaire. Il avait des richesses, il avait tout ce qu'il fallait. Mais néanmoins, il sentait qu'il avait besoin de ce que Dieu allait lui communiquer pour le servir. L'œuvre de Dieu, c'est celle dans laquelle nous sommes. Quel privilège, mes frères et sœurs, que d'être là ce matin, et je crois que nous mesurons encore, eh bien, cette grâce que Dieu nous a fait aux uns et aux autres, d'être à son service. Jamais nous n'aurions pensé, peut-être auparavant, nous étions dans des voies, dans des sentiers, des moins que rien. Mais Dieu nous a fait grâce dans son amour. Il nous a appelés à lui. Il s'est servi de nous. Il nous a appelés souvent encore. Je dis, Seigneur, pourquoi moi appelé au ministère? Pourquoi? Et on le dit et on mesure toute la grâce de Dieu. Pourquoi? Mais c'est le Seigneur qui l'a voulu comme cela et c'est lui qui ensuite eh bien, nous guide et nous conduit. Et je suis sûr que ce matin encore, il veut peut-être encourager quelqu'un. Quelqu'un qui se dit, mais à quoi bon? Est-ce que je sers à quelque chose dans cette église? Oui, tu es utile, mon frère, ma sœur, et tu seras utile si ce matin tu déposes ta vie sur l'autel. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps, Romains chapitre 12 verset 2, comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans l'intelligence de la parole de Dieu, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu à votre égard. Dieu a de grandes choses pour vous. Dieu va vous bénir. Dieu va agir encore avec force et puissance. Et merci Seigneur pour tout cela. À son Saint-Nom soit toute la gloire. Amen. Merci. Merci pour ces quelques instants que tu nous donnes, Seigneur, et où ta parole nous rappelle ce que tu veux faire avec nous, l'œuvre dans laquelle tu nous as enrôlés. Gloire à ton nom. Merci pour cette église d'Istres que tu bénis et que tu vas bénir encore, que tu n'as jamais abandonné et que tu bénis. Merci Seigneur pour ton serviteur, pour ta servante. Merci pour tous ceux qui sont déjà dans des services d'anciens, d'ouvriers, pour ce qu'ils font, quelle que soit leur place. Mais ce matin, qu'ils soient restaurés, renouvelés, fortifiés à tous égards, c'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons et que nous te disons merci Seigneur. Ce matin, mon frère, ma sœur, entends l'appel que le Seigneur a pour toi. Entends que ce matin, il te dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui va me servir encore? Qui ce matin va oser encore se mettre sur l'autel pour que je puisse me servir de sa personne, de sa vie? Ce matin, réponds à cet appel du Seigneur. Il va te bénir et il va réjouir ton cœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen.